VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 30 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Gabon, on attend aujourd'hui la publication des résultats de la présidentielle de samedi dernier. Nervosité dans le pays.
Toujours au Gabon, les observateurs européens ont fait état d'un manque de transparence dans le processus électoral.
En République démocratique du Congo, le Rassemblement, coalition opposée au dialogue national, a annoncé une série de manifestations pacifiques.
Au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger ont annoncé un cessez-le-feu dans cette région pétrolière.
Attentat suicide contre l'ambassade de Chine au Kyrgyzstan.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Gabon, les résultats provisoires de l'élection présidentielle de samedi dernier doivent donc en principe être annoncés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Jean Ping, principal candidat de l'opposition, continue de crier victoire, tandis que le camp du président sortant, Ali Bongo Ondimba, se dit confiant et optimiste. Beaucoup de Gabonais inquiets ont fait des emplettes en cas de violence. Les forces de l'ordre ont déjà quadrillé les principales artères de la capitale gabonaise, nous dit notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Pacom Moubele Boubeya, ministre de l'Intérieur, doit annoncer aujourd'hui les résultats provisoires. La CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, aura peut-être fini de compiler les résultats de quelques 2580 bureaux de vote. Hier lundi, le principal candidat de l'opposition, Jean Ping, a réitéré qu'il était le seul vainqueur. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, s'est dit confiant et optimiste devant les observateurs internationaux. Mais cette nuit, il y a eu des contrôles policiers le long de la corniche. Les forces de l'ordre sont visibles sur le boulevard Triomphal, sur le rond-point de la démocratie, souvent théâtre de contestation. Il suffira simplement d'attendre pour voir quelle sera la suite de cette journée à haut risque. Depuis Libreville, Idriss Fall, la voix de l'Amérique.
Dialogue national en République démocratique du Congo, après avoir rappelé à la conférence épiscopale nationale son intention de boycotter ce forum, le rassemblement des forces acquises au changement, plateforme politique que dirige Étienne Tshisekedi, a annoncé une série de manifestations pacifiques. L'objectif est d'obtenir, dans le strict respect du délai constitutionnel, l'organisation de l'élection présidentielle. On écoute Franck Diongo, membre du rassemblement, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le rassemblement demande au peuple congolais de rejeter toutes les conclusions qui sortiront de ce pseudo-dialogue qui est un complot contre la nation. Pour liquider le pacte républicain, de se mobiliser et de participer activement aux actions de résistance pacifique à partir du 1er septembre 2016. 3. De participer au sit-in de bureau de la CENI, des différents chefs liés des provinces et des missions diplomatiques de la RDC à l'étranger le lundi 19 septembre 2016, afin de réclamer la convocation immédiate de l'élection présidentielle et de déposer le préavis constitutionnel.
C'était Franck Diongo, membre du rassemblement au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Toujours en RDC, la Cour suprême du pays a ordonné hier la libération de 3 militants pro-démocratie opposés à la prolongation du mandat du président Joseph Kabila, et ce après au moins 17 mois de détention. Les précisions de Jacques Aristide.
La Cour a décidé la levée de la détention de Christophe Ngoy parce que son arrestation et sa détention ont été totalement irrégulières. Et elle a accordé la liberté provisoire à Fred Boma et Yves Makwambala, d'après leur avocat maître Joseph Mukendi Wamulumba. C'est dans le cadre des mesures d'apaisement que ces libérations interviennent, toujours selon maître Mukendi. Mais d'après un autre avocat de la défense, maître Tony Lubamba, les poursuites ne sont pas abandonnées. Les trois militants figurent sur une liste de prisonniers dont l'opposition réclame la libération comme l'une des conditions posées à sa participation à un dialogue national en vue d'élections apaisées. Ce dialogue doit s'ouvrir le 1er septembre. Monsieur Ngoy est un militant de la société civile en détention depuis les émeutes anti-pouvoir de janvier 2015, né après une tentative de révision de la loi électorale. Nous allons continuer de nous battre pour garantir à chaque Congolais la possibilité de s'exprimer sans avoir peur, a-t-il déclaré. Monsieur Boma est animateur du mouvement des jeunes indignés Lutte pour le changement, Lucha, basé à Goma dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Et monsieur Makwambala est webmaster de Filimbi, sifflé en Swahili, un collectif des mouvements citoyens.
Au Nigeria, les Vengeurs du Delta du Niger, groupe rebelle à l'origine de nombreuses attaques contre les installations pétrolières dans le sud du pays, ont annoncé un cessez-le-feu dans cette région. Le point avec Michel Joseph.
Nous avons attentivement écouté et nous avons arrêté les hostilités dans le Delta du Niger, ont écrit les militants dans leur lettre ouverte adressée lundi au président nigérian Muhammadu Buhari et publiée sur leur site internet. Cette trêve intervient une semaine après l'annonce des rebelles selon laquelle ils étaient disposés à observer un cessez-le-feu et à engager le dialogue avec le gouvernement nigérian. Cependant, aucun niveau de renfort des troupes et d'exercice militaire ne vous permettra de gagner la guerre du pétrole, ont-ils averti. L'armée nigériane a annoncé pour sa part avoir lancé une nouvelle offensive samedi contre les militants du Delta du Niger, tuant 5 d'entre eux et arrêtant 23 autres. Les attaques de militants contre les installations pétrolières du sud du Nigeria ont entraîné une chute de 7000 barils par jour de la production nigériane qui s'établit maintenant à 1,56 million de barils par jour.
En Libye, les forces pro-gouvernementales qui tentent depuis 3 mois de chasser l'organisation État islamique de la ville de Sirte ont annoncé hier avoir repris un des 2 derniers quartiers contrôlés par les djihadistes. Selon le porte-parole Rida Issa, le quartier numéro 1 au centre de la ville côtière est entièrement libéré et les miliciens libyens traquent les derniers islamistes avec l'appui de frappes aériennes américaines.
Au Togo, le gouvernement vient de reporter la rentrée scolaire de 3 semaines pour mieux se consacrer à l'organisation du sommet sur la sécurité maritime, nous signale de Lomé notre correspondante Kay Lawson.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un kamikaze au volant d'une voiture piégée s'est fait exploser mardi devant l'ambassade de Chine à Bishkek, capitale de l'ancienne République soviétique du Kyrgyzstan. Selon des médecins locaux, le conducteur de la voiture a été tué et 2 membres du personnel de l'ambassade, des Kirghizes, ainsi qu'une femme, ont été légèrement blessés par l'explosion. Des membres du personnel de l'ambassade de Chine et de celle toute proche de l'ambassade des États-Unis ont été évacués, a indiqué le service d'urgence kirghize.
Washington a annoncé hier une rencontre dimanche en Chine entre le président Barack Obama et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en marge d'un sommet du G20. Ce sera la première entre les 2 présidents depuis le putsch manqué du 15 juillet en Turquie qui a créé des tensions entre les 2 pays. Ankara exige l'extradition de l'imam Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis et accusé d'avoir ourdi cette tentative de coup d'État. Il y a aussi l'offensive lancée mercredi en Syrie par Ankara contre le groupe État islamique, mais aussi contre les Kurdes soutenus par les États-Unis. Le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a appelé les 2 parties à continuer à concentrer leurs efforts sur le groupe État islamique, ajoutant que c'est la base de notre coopération avec elle.
L'administration Obama a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé d'accueillir 10 000 réfugiés syriens d'ici à la fin de l'exercice fiscal en cours, avec 1 mois d'avance sur la date prévue, a annoncé hier la Maison-Blanche. Le dernier des 10 000 était attendu hier après-midi sur le sol américain, selon un communiqué de Susan Rice, conseillère à la sécurité nationale du président Obama. L'année budgétaire américaine s'achèvera fin septembre.
Et signalons que l'ancien premier ministre portugais António Guterres reste favori pour succéder à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général de l'ONU après un 3e vote à bulletin secret du Conseil de sécurité hier. C'est ce qu'ont déclaré des diplomates. le Conseil de sécurité tiendra des votes à bulletin secret jusqu'à ce qu'un consensus se dégage quant au remplaçant ou à la remplaçante de Ban Ki-moon, qui quittera ses fonctions à la fin de 2016 après deux mandats de 5 ans.
Enfin, la Corée du Nord a exécuté en public 2 responsables accusés d'avoir désobéi au dirigeant Kim Jong-un au début du mois d'août. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un quotidien sud-coréen.
La Minute Écho, Claire Moret-Gibourg.
Fin de TICAD 6, la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, qui s'est tenue ce week-end à Nairobi au Kenya. L'un des principaux acteurs de cette conférence, la BAD, la Banque africaine de développement, a signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires japonais, et notamment une initiative de 3 milliards de dollars pour stimuler la croissance du secteur privé en Afrique. Le gouvernement congolais lance un nouveau programme d'action prioritaire de l'agriculture 2016-2019 d'un montant de 960 milliards de francs CFA. Un programme qui vise dans un premier temps la sécurité alimentaire, puis l'autosuffisance alimentaire. Le programme sera financé par le secteur privé, l'État et les partenaires techniques, a indiqué le ministère congolais de l'Agriculture. Plusieurs priorités ont été définies, comme la mécanisation de l'agriculture, l'irrigation dans les parties du pays où l'eau est difficile d'accès et l'encadrement des agriculteurs, sans oublier la conservation des produits agricoles. Les inégalités entre hommes et femmes coûtent chaque année quelque 95 milliards de dollars à l'Afrique subsaharienne. C'est ce qu'a affirmé le PNUD. Le Programme des Nations Unies pour le Développement souhaite que les pays africains prennent des mesures afin de bénéficier du potentiel des femmes.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Football, le Sénégal se prépare pour affronter la Namibie.
Oui, début du stage des Lions de la Teranga en vue de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le duel entre les Lions de la Teranga et les Warriors est prévu samedi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, la correspondance d'Amdine Si.
L'hôtel Fleur de Lys, qui sert de tanière aux Lions, commence à accueillir les pensionnaires de la sélection nationale, mais à l'UCC risque de se passer de certains cadres comme Karamboute, Moussa Konaté, Khalidou Koulibaly et Diao Balde Keïta qui sont en instance de transfert, mais cela n'ébranle pas le coach de Lyon qui s'attendait à jouer un match dans un contexte difficile. Amédine Sy, depuis Dakar, pour VO Afrique.
Au Cameroun, on connaît le champion 2016 de football.
Oui, il s'agit de l'USM Loum, l'Union des mouvements sportifs de Loum, une équipe sacrée hier lundi, pour la première fois de son histoire, champion du Cameroun de football à 2 journées de la fin du championnat. USM Loum, après sa victoire 2-1 face au New Stars Douala, compte 66 points contre 56 pour Coton Sport Garoua, champion sortant, défait 2-0 par Botafogo Douala.
Qualification pour le Mondial 2018, le Portugal se passera finalement de Renato Sanchez.
Oui, Sanchez qui s'est illustré à l'Euro 2016 avec le Portugal, champion d'Europe, et qui se relève de blessure, ne rencontrera pas finalement Gibraltar en amical, puis la Suisse en qualification pour le Mondial 2018. C'est ce qu'a annoncé lundi la Fédération portugaise de football.
Et Messi est de retour au sein de l'Albi Céleste.
Oui, Sergio Aguirre et Javier Pastore ont déclaré forfait pour Argentine-Uruguay ce jeudi, mais la vedette de la sélection, Lionel Messi, a lui confirmé sa présence. L'information a été donnée par l'AFA alors qu'une rumeur circulait lundi matin en Argentine sur une possible indisponibilité du Barcelonais après avoir reçu un coup ce week-end en championnat espagnol. Messi, qui avait annoncé fin juin sa retraite internationale, est revenu sur sa décision il y a 3 semaines après une visite à Barcelone du nouveau sélectionneur Edgardo Boza, qui a récemment succédé à Gerardo Martino, démissionnaire. L'Argentine reçoit jeudi l'Uruguay à Mendoza, puis se déplacera le 6 septembre à Mérida pour affronter le Venezuela. Les deux rencontres comptent pour les éliminatoires du Mondial 2018.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pour revenir sur le Gabon, avis mitigé des observateurs de la présidentielle du 27 août, ceux de l'Union européenne ont fait état d'un manque de transparence dans le processus électoral gabonais. Nous retrouvons Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville.
L'opposant Jean-Ping en remet une couche. Il a tenu ce lundi un nouveau point de presse pour dire qu'il est l'élu des Gabonais avec une légère nuance, car il affirme ne pas s'auto-proclamer président.
Hier, j'ai rencontré les ambassadeurs de France et des États-Unis en poste dans notre pays. J'ai informé ces autorités diplomatiques de ce que, à l'issue du scrutin du 27 août 2016, sur la base de la quasi-totalité des procès-verbaux dûment établis et signés dans les bureaux de vote par toutes les parties présentes, nous sommes en mesure d'affirmer que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Ces propos ne constituent en rien une autoproclamation, contrairement à ce que soutiennent les faucons du régime.
Aucun camp n'avance de chiffres. Le président Ali Bongo Ondimba a réitéré devant les observateurs internationaux toute sa confiance et son optimisme. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a donné une sorte de satisfecit au processus en relevant cependant quelques irrégularités. Maria Gabriel, chef de la mission d'observation de l'Union européenne.
Les conditions de vote ont été jugées satisfaisantes sur la base de l'absence de tensions, d'agitation ou d'activité de campagne, garantissant dans les mêmes proportions le secret du vote. Les défaillances au niveau du contrôle de l'empreinte indélébile. Dans 17% des bureaux de vote observés, la mission a noté des cas de refus de droit de vote en raison de l'absence de documents d'identification valables. Que le dépouillement dans les bureaux de vote était bien conduit, maintenant j'encourage les autorités gabonaises à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote.
Du côté de la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, c'est le silence radio, car il faut compiler tous les procès-verbaux et les transmettre au ministère de l'Intérieur, qui promet de publier aujourd'hui les premiers résultats provisoires. En attendant, le pays est sous haute tension. Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En République démocratique du Congo, un meeting du rassemblement a mal tourné hier à Lubumbashi. D'après l'AFP, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène des centaines de jeunes venus dénoncer la convocation à partir du 1er septembre du dialogue national destiné à préparer des élections. Les manifestants ont réagi en jetant des pierres sur les policiers et ont érigé des barricades. La confusion a entouré ce meeting dans la commune de Kenya. Selon les autorités locales, ce meeting n'était pas officiellement autorisé, ce que contestent les organisateurs qui, selon Radio Okapi, soutiennent que le maire a signé un document autorisant le rassemblement. Précisément, le parti Envol de Deli Sesanga à tenir son meeting. De Lubumbashi, notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Grenade lacrymogène, jeu de pierre, pneus brûlés, telle a été la situation qu'a vécu la commune de la Kenya. Paralysée par les échauffourées entre la police qui voulait disperser les militants des partis politiques de l'opposition, rassemblés pour un meeting non autorisé, selon le maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, qui s'explique.
Le comité urbain de sécurité de la ville de Lubumbashi n'a jamais autorisé un meeting aujourd'hui, que ce soit sur la place de la gare, que ce soit au siège de l'INADEF à la commune de Kenya. C'est un autre parti politique, l'Envol, qui a écrit pour solliciter la tenue du meeting au niveau de la gare. Après analyse de la situation, nous avons trouvé que le parti Envol n'a pas de siège à Lubumbashi pour pouvoir tenir une réunion ou tenir un meeting. Voilà pourquoi les membres du comité de sécurité ont demandé à ces partis politiques de ne pas tenir leur meeting à Lubumbashi. Et puis, on se pose la question, pourquoi les autres partis se sont hasardés à jeter des tracts pour demander à la population d'aller au meeting à la place de la gare? Or, ils n'ont jamais demandé, voilà pourquoi la police devait les mettre de l'ordre.
Pour l'honorable Christian Mwando, président provincial de l'UNADEF, son directoire, lieu où devait se tenir le meeting, affirme lui par contre que le meeting a été autorisé par le maire de la ville.
Les gens qui veulent se réunir alors que le maire a autorisé à l'envol de faire ce meeting, on jette les gaz lacrymogènes, on tire des coups de feu et on enferme les gens. Alors il faut empêcher l'opposition de se réunir, c'est parce que le maire et le gouverneur veulent mentir à Kabila, non, pour dire que Kabila est populaire.
Du côté de la police, le meeting n'a pas été autorisé selon le communiqué officiel numéro 940 du maire de la ville signé le samedi 27 août. Général Jean Bosco Galenga revient sur les déroulements des événements avec un bilan.
Pour suivre les communiqués, à bien dire que ce meeting n'était pas autorisé. L'obstruction de la voie publique par les partisans d'organiser ce meeting, ils sont rentrés dans leur directoire librement, on les a laissés rentrer dans leur directoire, et qui d'ailleurs a agressé certains passants. Quelques membres de la police, je crois à peine une dizaine de policiers, sont arrivés à une section pour leur dire calmement de dégager la voie publique, hein, de faire leur manifestation en dégageant la voie publique. Ils se sont mis à caillasser, ils ont caillassé, ils ont blessé des policiers, il y en a qui sont grièvement atteints.
Le bilan était encore confus jusque tard dans la soirée, alors que le calme revenait peu à peu. Lubumbashi, Narval Nabila, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, une trentaine de tonnes de poulets avariés saisies récemment à Ouagadougou par les forces de sécurité permet de démanteler un système illicite d'importation et de commerce d'aliments impropres à la consommation. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Coup sur coup, les forces de sécurité burkinabé vont mettre la main ces dernières semaines sur des cargaisons entières d'aliments impropres à la consommation, notamment de la volaille. Dernière en date, ces deux camions chargés d'une quantité record de près de 30 tonnes de poulets congelés venant de pays voisins. Le ministre en charge de la sécurité intérieure s'est rendu sur les lieux, Simon Compaoré.
Des policiers de chez nous qui étaient en faction sur la route centrale ont vu deux véhicules d'immatriculation étrangère. Ils ont sifflé là et ne se sont pas arrêtés. Et ils les ont poursuivis et ces deux véhicules-là sont venus entrer ici et les chauffeurs se sont évanouis dans la nature. Ils ont remonté le filon, ils ont vu qu'il y avait même à la gare de l'Est ici des entrepôts où on avait des frigos, des congélateurs où ils venaient mettre le produit avarié certainement là-bas, conditionné dans des cartons qui ne correspondent pas à l'origine donc des produits. En la matière, c'est tolérance zéro parce qu'il s'agit de la vie des gens. En tout cas, les propriétaires seront recherchés et les acolytes seront traduits devant la justice.
Une attitude et une activité qui violent les dispositions de la loi concernant les importations de viande, comme l'atteste le ministre en charge des ressources animales, Soumanogo Koutou.
C'est la fraude d'abord, hein, puisqu'il est interdit, formellement interdit d'importer de la viande. Nous les saisissons avec, en tout cas, l'appui des forces de défense et de sécurité et nous procédons à l'incinération. Il faut maintenant que nous puissions faire agir les mesures pour punir ceux qui le font.
Saisie de l'affaire, la Ligue des consommateurs du Burkina a réagi face à la situation. Boukari Tabsoba est le secrétaire en charge du suivi des plaintes et réclamations section Kadiogo.
Nous envisageons, chose même que nous avons l'habitude de faire, des sensibilisations auprès des populations pour que le consommateur lui-même puisse en tout cas identifier un mauvais produit et puisque le commerçant aussi sache que vraiment tel ou tel produit n'est pas bon. Et en cas de produit de qualité douteuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Les moyens souvent nous font défaut. Donc si la Ligue a des accompagnements auprès de certaines personnes morales ou physiques, ça va en tout cas contribuer à ce que vraiment la lutte la soit menée à bien.
Cette volaille impropre à la consommation sera comme d'habitude incinérée, foi du ministre en charge des ressources animales, quand son collègue de la sécurité intérieure demande encore la vigilance à la population. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
présidentielle américaine 2016, c'est mercredi, demain donc, que le candidat républicain Donald Trump prononcera son discours très attendu sur l'immigration. En attendant, il lance sa plus importante campagne télévisée cette semaine. Son adversaire démocrate, Hillary Clinton, présente un ambitieux plan de lutte contre les maladies mentales. Le point, Timothée de Nangmaï.
Donald Trump compte faire diffuser cette semaine ses spots télévisés dans les États de l'Ohio, de Pennsylvanie, de la Caroline du Nord, la Floride et la Virginie, entre autres. Il prévoit d'investir jusqu'à 10 millions de dollars dans cette opération. Ces achats de temps d'antenne s'ajoutent à une campagne audiovisuelle lancée en début de mois et dotée d'une enveloppe de 5 millions de dollars. Selon Jason Miller, conseiller en communication de Trump, le message positif du candidat républicain portant sur les opportunités économiques est en train d'avoir un impact au plan national et dans les États clés, et les sondages s'orientent dans une bonne direction. Donald Trump, dont la stratégie médiatique consistait jusqu'ici à se contenter de l'attention générée par ses propos controversés, est à la traîne en termes de fonds électoraux. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton s'apprête à injecter 9,2 millions de dollars dans sa campagne médiatique cette semaine. Depuis son investiture comme candidate, elle a déjà dépensé plus de 77 millions de dollars dans les messages télé et radio visant les électeurs des États clés, selon la compagnie spécialisée Kantar Media.
Et Hillary Clinton présente cette semaine, Timothée, son plan de lutte contre les maladies mentales.
Des chiffres du gouvernement fédéral datant de 2014 font état de 43,6 millions de personnes ayant connu des problèmes mentaux l'année précédente et de près de 10 millions d'adultes souffrant de sérieuses maladies mentales. Parmi ces personnes figurent de nombreux soldats rentrés des opérations militaires en Irak et en Afghanistan. Le plan de la candidate démocrate souligne la nécessité d'une meilleure intégration des soins mentaux dans le système de santé des États-Unis. Elle entend orienter ses efforts vers la détection précoce et la prévention des maladies mentales et compte lancer une initiative nationale de prévention du suicide. La candidate démocrate avait annoncé un peu plus tôt cette année, en compagnie de son adversaire des primaires, le sénateur Bernie Sanders, une augmentation du financement des centres de santé communautaires. Madame Clinton se propose d'organiser une conférence à la Maison-Blanche sur la santé mentale dès la première année de sa présidence, au cas où elle serait élue à la présidentielle de novembre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Malaika Nakupenda Malaika. Malaika Nakupenda Malaika. Na milifanyeje kija na mwezi leo, nashindwa na mali sina we.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Arnold Botson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.